important. Ce n'est pas pour rien si Gergiev est quasiment un ami de Vladimir Poutine. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de l'art en dehors de la politique, il n'y a pas de sport en dehors de la politique en Russie. Tout comme au temps de l'URSS, tout cela fait partie de la propagande du régime, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'international. Ça fait partie de soft power russe. Et donc, il est important de couper les liens avec les soutiens de Vladimir Poutine et de cette guerre, parce que ça participe à la propagande. Mmh. Et il y a aussi autre chose. Si on a l'impression qu'il faut absolument que la Russie est éternelle, qu'il faudra absolument négocier avec la Russie, voire donner victoire à la Russie, c'est également grâce à cette propagande, y compris culturelle. Alors même que je voudrais rendre hommage à Vassil Slipat, qui était un chanteur d'opéra d'origine ukrainienne à l'Opéra de Paris, qui était mort en Ukraine, sur le front, tué par un sniper russe.
On parlait de la réellement perdu la main, mais c'est vrai qu'il y a des petites divergences actuellement en Ukraine. Il y a eu ce remaniement, comme vous l'avez évoqué. Et ça, c'est une décision de la Rada de supprimer l'indépendance.
La Rada, c'est l'Assemblée nationale. C'est
l'Assemblée nationale en Ukraine, de supprimer l'indépendance des institutions qui luttent contre la corruption.
Absolument.
Mais je pense que cette proposition de Volodymyr Zelensky s'adresse plutôt à Donald Trump pour montrer que l'Ukraine recherche vraiment la paix et les négociations, y compris avec Vladimir Poutine, même si évidemment à ce stade-là ça n'aurait aucun sens. Mais donc il propose cette reprise, et de toute façon c'est bien qu'il se parle. Il n'y aura pas de résultat, en tout cas ni sur un cessez-le-feu, ni sur des éléments d'un accord de paix. En revanche, sur les questions humanitaires, c'est tout à fait possible, à la fois l'échange de prisonniers, les corps, et puis aussi peut-être les enfants qui ont été déportés en Russie.
Jean-Marc, pour que Poutine soit arrêté, il faut qu'il sente, je disais qu'il est mal, en tout cas qu'il sente une véritable résistance. Et aujourd'hui, les Européens ne sont pas en capacité de créer cette résistance par eux-mêmes, et donc ils ont besoin d'une façon ou d'une autre de garder les Américains à bord. Mmh. Même si les Américains, leur priorité n'est absolument pas ni le soutien à l'Ukraine, ni le soutien à l'Europe. Les Américains sont tournés vers leur compétiteur stratégique en Asie, qui est la Chine, et ils considèrent que ce qui se passe sur le sol ukrainien est notre problème. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Trump, il n'a pas été élu par les citoyens américains pour défendre les Européens. Ce que nous avons souvent tendance à croire, nous, qui sommes au sein de l'OTAN, cette belle alliance où les Américains assuraient notre protection. Il a été élu pour de la politique intérieure américaine.
Ouais.
Donc finalement, les signes qui sont donnés par Zelensky peuvent avoir un intérêt, d'autant plus que Donald Trump y a quand même mis sur la table tout ce que demandait Poutine au début de ce conflit, pour qu'il arrête, en lui disant on vous donne les oblasts que vous réclamez, on vous garantit que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, il n'y aura pas de soldats européens déployés, etc. En fait, il a été très vexé parce que finalement, Poutine n'a pas accepté ce deal, qui était un deal en or.
Il a fait
évoluer, et là, il se dit finalement, cette première phase n'a pas fonctionné, et peut-être qu'il va être conduit à adopter une posture plus dure, plus ferme, pour les intérêts des Américains.
Donc, ce que disent les Russes, et leur position est constante depuis quasiment 10 ans. Ça n'a pas bougé d'un iota, ça n'a pas bougé il y a une semaine et ça n'a pas bougé hier. Il y a peu de chances que ça bouge. Il y a peu de chances que ça bouge, et c'est là où c'est important de se rappeler que Volodymyr Zelensky était élu sur le programme d'une main tendue, d'une solution diplomatique. Il y a eu une rencontre à haut niveau entre lui et Vladimir Poutine organisée à Paris. Elle n'a rien donné parce que précisément Vladimir Poutine, il a toujours exigé ce qu'il a exigé. Volodymyr Zelensky n'a pas pu lui donner cela pour une bonne et simple raison, c'est que l'Ukraine est une démocratie et que la nation est contre. Mais par la suite, Volodymyr Zelensky n'a pas cessé d'offrir une solution diplomatique. Mmh. Mais ce n'est pas pour ça que cela va marcher, parce que pour parler, il faut de...
Sure. Voilà, il faut...
Les nouvelles images de propagande diffusées hier par la télévision russe, elles montrent ce qui est présenté comme la plus grande usine de drones du monde. On peut le voir sur ces images, l'usine de Yelabouga au Tatarstan, à 1000 km à l'est de Moscou. Elle produit des drones suicides Guéran 2 qui transportent des ogives et volent à 300 km/h. En 2 ans, cette usine a doublé de volume grâce notamment à des adolescents qui viennent des régions voisines et qui travaillent sur ces chaînes de production. Ça montre la cadence de la Russie qui, selon les estimations, pourrait produire plus de 5000 drones longue portée par mois. L'armée russe est même en train de développer un nouveau drone, le Guéran 3. Il va encore plus vite que le précédent, jusqu'à 700 km/h, et il est donc beaucoup plus difficile à intercepter. Alors, quel est l'objectif de Moscou dans cette course aux drones? Eh bien, vu que les Russes n'avancent quasiment plus sur le terrain, l'idée est maintenant de viser, de harceler en quelque sorte la population ukrainienne. Et pour cela, Moscou pourrait mener une attaque massive de drones, 1000 voire peut-être même 2000 drones utilisés simultanément, c'est ce que pensent les experts, et ce serait un véritable record. Jean-Marc,
dans la guerre, il n'y a pas que la quantité est une qualité en soi, mais c'est pas parce que vous avez plus de drones ou plus d'obus que vous allez gagner. Et la preuve en est, les Russes sont 4 fois plus puissants, plus grands, plus forts que les Ukrainiens, et ça fait 3 ans et demi qu'ils n'arrivent pas à remplir leurs objectifs militaires. Donc certes, ils vont produire beaucoup plus de drones, mais les Ukrainiens aussi. Les Ukrainiens ont multiplié par 100 leur capacité à produire des drones. Ils ont en plus, ils sont beaucoup plus forts que les Russes en termes d'innovation. Dès qu'un drone est mis sur le champ de bataille, l'adversaire trouve un moyen de contrer sa nouvelle spécification. Et donc les Ukrainiens sont capables de se réinventer. Et surtout, ils ont appris à construire ces drones de façon très délocalisée, pas dans des grosses usines qui pourraient être détruites par un seul coup au but, mais au contraire, chaque famille dans son garage est capable de construire des drones pour aller les donner à l'unité de combat qui est juste derrière, à côté.
Oui, mais alors c'est cette demande qui a été faite à la réunion de coordination militaire de Rammstein, mais il y a également un certain nombre de projets avec des Européens, avec les Américains aussi, de construction d'usines de drones en Ukraine, chacun gagnant quelque chose, puisque effectivement les Ukrainiens ont cette supériorité en matière de drones, alors que pendant des années, les Occidentaux ont totalement ignoré cette arme. Bon, il y a une montée en puissance pendant cette guerre, c'est évident. La France est elle-même très très en retard dans ce domaine. Donc il y a cette possibilité. Là, l'Ukraine fabrique déjà 40% de ses armements, mais elle a besoin d'avantage, effectivement.
Et toujours été au rendez-vous, mais est-ce que l'Europe a augmenté ses dépenses et ses capacités
suffisamment
depuis février 2022. Voilà, c'est ça la question, ça c'est la première question. Mais après, je pense que finalement, on a trouvé la solution optimale, c'est-à-dire la production en Ukraine, parce que comme
plus que d'envoyer des armes, c'est produire en Ukraine.
Exactement, parce que comme l'a bien souligné Jean-Marc Higelan, l'Ukraine est une société industrialisée, on a beaucoup d'ouvriers qualifiés, dans les domaines d'armement et d'aérospatial par ailleurs. On est très fort en logistique, on possède des routes, des chemins de fer. Donc toutes les conditions sont réunies pour que la production soit efficace en Ukraine.
Alors, à en subir le coup, mais tout juste, parce qu'en 2024, la Banque mondiale l'avait classée au 4e rang des économies mondiales en parité de pouvoir d'achat. Donc maintenant, effectivement, il y a des effets qui ne sont pas uniquement liés d'ailleurs aux sanctions, mais la Russie est passée en économie de guerre, donc il y a une surchauffe, il y a un manque de main-d'œuvre, et ça crée un certain nombre de difficultés, il y a effectivement une inflation. Maintenant, le fait d'en être au 18e paquet de sanctions montre qu'il y a un problème d'efficacité des sanctions. Je comprends qu'on est en train de préparer le 19e. Oui, et souvenez-vous que pour le premier, on avait dit que à la bombe atomique, ça serait la suppression de l'accès au système SWIFT financier par les Russes. Et en fait, dès que vous avez un système de sanctions, vous avez un contournement par beaucoup de pays, et en réalité, que ce soit l'Inde, la Chine, le Kazakhstan, les pays du Golfe, la Turquie. Et c'est très difficile puisque ce ne sont pas des sanctions internationales.
Oui. Parmi d'autres, en fait, la puissance, elle s'exprime selon trois canaux. La puissance de coercition, la puissance militaire, mais aussi la puissance économique, la capacité à acheter, et puis finalement le soft power, la puissance culturelle ou la puissance de convaincre. Donc on a besoin des deux. Et on voit bien que les sanctions économiques ont un effet, mais il n'est pas aussi instantané que l'on l'espère, parce que la société russe est bien plus résiliente que nos propres sociétés occidentales, d'une part. Maintenant, pour que Poutine arrête d'avancer vers ses objectifs qui sont finalement la suppression de l'Ukraine comme État indépendant, il faut qu'il rencontre un mur. Et dans ce mur, il doit y avoir une force militaire, une force militaire qui finalement l'amène à réviser ses objectifs stratégiques. Mmh.
Et pour en venir sur, puisque la Russie tire ses profits principalement de la vente d'hydrocarbures, ça serait logique d'entraver au maximum cette vente-là pour que la Russie ait moins de ressources pour financer cet effort de guerre. Et là, encore une fois, comme vient de dire mon collègue, la pression économique, c'est un effort de guerre comme un autre, et dans cet effort, comme dans la production d'armes et tout, ce n'est pas un effort qui compte, c'est un effort répété qui s'accentue. Parce que, bien entendu, la guerre, c'est quelque chose où les acteurs s'adaptent sans cesse. Et c'est celui qui est le plus inventif qui gagne. Et bien entendu, il est de l'intérêt existentiel de la Russie que de s'adapter et de contourner les sanctions, mais c'est même pour cela que nous devons accentuer cette pression et d'essayer d'adapter également.
L'Union a essayé de convaincre la Chine qu'elle devait faire pression sur la Russie. La Chine considère qu'on n'a pas les moyens, en plus de ça, peut-être pas la volonté non plus, même si finalement elle n'aime pas trop cette guerre parce que ça perturbe les circuits économiques et la seule chose qui intéresse la Russie. Mais il n'y a pas de vassalité comme on l'entend dire très souvent.
Mais on lui prête
C'est ce que disent beaucoup d'experts chinois. D'ailleurs, on prête effectivement trop d'influence à Xi Jinping.
C'est le premier partenaire commercial de la Russie.
Oui, tout à fait. Donc... Oui, mais alors, Poutine ne s'intéresse absolument pas à l'économie. La seule chose qui intéresse, c'est la géopolitique. Et pour lui, la guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre existentielle. Donc personne, à ce stade, ne peut le convaincre. Sinon, éventuellement, Trump, mais ce n'est pas garanti, s'il y a de véritables mesures de rétorsion. Donc les Chinois peuvent dire à Poutine il faut arrêter la guerre, mais il n'y aura pas d'impact et ils ne le feront pas en faisant des pressions ou de véritables menaces.
Jean-Marc, disons rapidement, on prête à la Chine.
C'est un peu comme les États-Unis, il y a un rôle de médiateur. Ils sont pas neutres, quoi. Ouais. Et donc je pense que les Chinois, ils ont des intérêts convergents avec les Russes. C'est de désorganiser l'Occident, c'est de nous affaiblir. Ils sont notre compétiteur stratégique. Ouais. Maintenant, dans leur relation avec la Russie, c'est une alliance de circonstances. Je pense qu'il n'y a peut-être pas ce rapport de vassalité, mais pour autant, compte tenu de ce que fait Poutine, il affaiblit son pays et il le met dans une position de faiblesse par rapport à la Chine. Et la Chine regarde avec étonnement comment une puissance nucléaire de ce calibre, en fait, se fracasse les dents sur l'Ukraine.
Merci.